Donc bah, bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à ce séminaire. Donc quand Nicolas m'a donné la thématique du séminaire, j'ai eu comme idée de titre Surveiller en probabilité. Alors peut-être deux mots quand même de précision sur mon positionnement scientifique. Donc moi je suis une généticienne statisticienne de formation et j'ai fait de la génétique épidémiologique, des mesures de risque, des développements statistiques en génétique humaine des très complexes pendant une bonne quinzaine d'années. Et depuis deux ans, j'ai rejoint, enfin un an et demi, le CERMES 3, donc, qui est un centre de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et santé. Donc je suis chercheuse INSERM. Et donc je continue à travailler sur les questions de génétique génomique, mais sous un angle donc plus de sciences humaines, un peu au sens large. Voilà, donc j'ai quand même ce lourd passif, ou actif, de statistiques probabilité, et donc je réfléchis encore beaucoup, et je pense pour longtemps les choses à travers ce prisme aussi, donc comme vous verrez, c'est quelque chose qui est important pour moi, et en particulier quand on parle de surveillance. Alors, par ailleurs, je n'ai pas mentionné que j'ai aussi eu des activités... j'ai été témoin plusieurs fois dans des procès autour de l'ADN. Je me suis un peu auto-formée à la question de ADN et médecine médico-légale. Et je n'ai pas de diapo, mais avec un de mes anciens collègues, on a écrit un livre il y a deux ans qui s'appelle ADN Superstar ou Superflic, où on s'intéresse aussi, entre autres, à ces questions-là. Et du coup, comme c'est Lyon, je me suis dit, tout le monde a sa petite touche locale, hein, mais là, c'était quand même, c'était quand même donné, que j'allais partir sur cette histoire de portrait robot à partir de l'ADN d'un violeur, puisque tout ça vient de Lyon. Donc, pour ceux qui viennent de Lyon. C'est-à-dire que l'histoire qui a tout lancé, c'est une histoire lyonnaise, donc c'est pour ça. Donc avec cet extrait du Dauphiné qui annonce que la technique du portrait robot à partir de l'ADN a été validée par le Conseil constitutionnel dans le dossier dit du violeur du 8e arrondissement, et donc le code génétique du suspect a permis de dresser un portrait robot sur des caractéristiques physiques, une révolution, donc dit le Dauphiné. Alors juste, je ne suis pas sûre qu'on voit ça de très loin, mais juste pour me poser les choses, deux extraits du code civil et code de la santé publique française, juste pour bien insister sur le fait que la loi française distingue deux choses sur la génétique. Il y a d'une part ce qu'on va appeler les empreintes génétiques, qui consistent à utiliser un certain nombre de marqueurs sur le génome pour identifier une personne, sans chercher à faire dire autre chose qu'il s'agit de telle personne ou il s'agit de telle autre personne. Et l'autre catégorie du droit, c'est les caractéristiques génétiques. Et dans cette idée de caractéristiques génétiques, c'est l'idée qu'on va utiliser l'ADN pour dire quelque chose sur la personne. Voilà. Alors, dire quoi ? Il y a une précision. Donc ça, c'est dans le code civil. Donc c'est quand même c'est haut dans le code civil, en plus, c'est des articles importants. La précision sur les caractéristiques génétiques, on la trouve dans le code de la santé publique, qui dit que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreinte génétique à des fins médicales consiste à analyser ces caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement pour soit confirmer ou infirmer le diagnostic d'une maladie à caractéristiques génétiques, soit rechercher des caractéristiques, des gènes de susceptibilité, ou alors pour adapter une prise en charge d'une personne selon ses caractéristiques génétiques. Donc, dans cette définition, enfin, jusqu'à très récemment, l'interprétation qui était faite de ce droit, c'était que on n'avait pas le droit d'utiliser l'ADN d'une personne pour dire quelque chose sur cette personne, en dehors d'un cadre de recherche ou de soins. Et que faire ça, c'était aller contre la définition du droit. En matière de juridique, on avait le droit de faire que de l'empreinte génétique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pensait que ce n'était pas possible de faire du portrait robot génétique. Et en fait, la Cour de cassation, donc excusez-moi, j'ai dit Conseil constitutionnel, mais c'était la Cour de cassation, au mois de juin, donc dans cette affaire du violeur, où le juge d'instruction, comme on n'arrivait pas à avancer, vous devez savoir mieux que moi j'ai appris ça par la presse, une affaire qui a été jugée en tout cas comme très... tout le monde s'y mêlait, le maire, enfin une grosse affaire, voilà, politico-judiciaire, et il fallait retrouver ce violeur, et donc le juge qui voulait vraiment avancer a demandé à l'Institut de police judiciaire d'essayer d'avoir des informations sur à quoi ressemble cette personne qu'on recherche, puisqu'on n'arrivait pas à la trouver. Mais comme il savait que c'était une pratique qui jusqu'à présent était jugée illégale, il s'est un peu couvert et tout ça est remonté jusqu'à la Cour de cassation, qui, à la surprise quand même générale, je pense, enfin en tout cas, c'est vraiment une révolution dans ces pratiques, a considéré que, en l'occurrence, on avait déterminé des caractéristiques génétiques à partir d'un matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps humain. Donc ce n'était pas le corps humain, ça c'était naturellement détaché du corps humain. Donc les articles 16.10 et 16.11 du Code civil, donc ceux-là, n'avaient pas vocation à s'appliquer. Bon, c'est pas une distinction qui est... Enfin, le droit... Il y a une jurisprudence déjà qui fait cette distinction. Hein. Dans le droit des brevets, il y a des trucs un peu comme ça qui sont assez étonnants. Dès lors que donc, ces articles ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain. Donc là, il ne s'agit pas de protéger le corps humain. Et alors, par ailleurs, cette recherche consistait exclusivement à révéler les caractéristiques morphologiques apparentes de l'auteur, inconnu d'un crime à partir de son ADN, à seule fin de faciliter son identification. Donc là, les juges disent, certes, on va dire quelque chose sur cette personne, mais on ne va pas dire quelque chose qui a trait à sa santé, on va juste dire quelque chose qui a trait à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, ce n'est pas interdit par la loi. Bon. C'est quand même pas très solide au regard de l'esprit dans lequel la loi a été conçue. Mais dans l'interprétation jurisprudentielle, en tout cas, voilà, c'est la Cour de cassation, on verra peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un journaliste du Monde, je ne sais pas si vous avez... eu l'occasion de lire cet article, mais il est en libre accès. Et il est assez intéressant parce que c'est un journaliste du Monde qui a mené l'enquête sur cette histoire précise et qui donc a contacté les laboratoires qui ont fait les analyses, qui a eu accès à tous les documents qui ont été produits au cours de l'enquête. Et qui donc, dans cet article, explique que l'information qui a été produite dans ce cas-là, c'était donner la couleur des yeux, des cheveux. Alors de la peau, il l'avait pas fait, mais ils auraient pu le faire. Et ils auraient pu faire aussi l'origine biogéographique. Et donc lui-même, pour voir ce que ça donne, a donné un peu de sang ou de salé, je ne sais plus. Et il a fait faire son portrait robot génétique à lui. La conclusion de l'analyse serait, avec une confiance appuyée, il s'agit d'un individu aux cheveux châtains, avec une teinte majoritairement claire et des yeux bleus. Donc le résultat, là, il se présente comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée de probabilité, c'est qu'évidemment, il s'agit de probabilité, hein, il ne s'agit pas de certitude, donc il a 81% de chances d'être châtain, ou 14% d'être blond, et pareil sur la teinte des cheveux ou sur la couleur des yeux. Et puis à gauche, vous avez des informations sur le fait que cet individu a quand même de très 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 fortes chances d'être d'origine européenne. Alors donc, moi j'ai été interrogée par ce journaliste, et donc, j'ai pas beaucoup parlé de choses dont je vais parler aujourd'hui, du reste, sur qu'est-ce que c'est que ces probabilités, d'où elles viennent et dans quelle mesure on peut avoir des informations plus précises. Ça, c'est un extrait de l'article où il dit « Conscient des limites actuelles de cette technologie, ses partisans sont néanmoins convaincus qu'on parviendra à terme à une photographie génétique avec un degré de probabilité satisfaisant ». Donc c'est un peu ça que j'ai envie de discuter. Qu'est-ce que ça veut dire, un degré de probabilité satisfaisant, une photographie génétique, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est qu'une question technique ou pas? Donc je vais donner mon point de vue, hein, bien sûr, il est ouvert à la discussion. Et donc pour Sylvie Moisson, procureure générale de Lyon, cette technique d'aide à l'enquête est déjà intéressante. Le portrait robot traditionnel, tiré d'un témoignage par nature subjective, n'offrant pas plus de certitude. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai que moi, quand il m'a posé la question, je ne suis pas flic. Donc, moi, j'ai répondu de mon point de vue de généticienne. C'est sûr que la question pour un policier se pose peut-être dans des termes différents. Et du coup, la question du degré de probabilité qui va être jugé satisfaisant, ça va dépendre des enjeux qui sont autour de la décision à prendre. Hein, peut-être qu'effectivement, lancer une piste d'enquête, les policiers ont l'habitude d'en lancer à partir d'éléments moins solides que ça. Donc, finalement, ce n'est pas plus mal. Hein, alors que nous, dans les questions biomédicales, on a peut-être besoin, comme Dominique nous l'a bien montré, de probabilités un peu plus solides avant de s'engager. Finalement, l'enjeu, c'est est-ce que la probabilité, elle est jugée assez élevée pour faire consensus au sein des praticiens qui sont censés prendre une décision donnée. Donc ça, c'est un premier élément, évidemment. On ne peut pas le nier. Hein. Après, et là où je vais plutôt parler aujourd'hui, c'est évidemment question, c'est quelle est la fiabilité de la mesure de probabilité ? Est-ce que la mesure qu'on a est robuste aux hypothèses qui ont été nécessaires pour faire ce calcul ? Parce que quand on fait un calcul de probabilité, on fait une espèce de modélisation des choses, et donc on fait forcément des hypothèses. Hein. Voilà, donc il y a toujours des limites à ces calculs de probabilité. Et une façon de tester ça, c'est de voir si ces probabilités sont vraiment solides pour faire des prédictions. Alors donc le titre que j'avais donné donc pour cet exposé, c'était donc la génétique des traits complexes à l'épreuve de la prédiction. Alors moi je dis très complexe. Quand je dis très complexe, dans mon langage, donc avec une perspective d'approche génétique des maladies ou des caractéristiques, je distingue d'une part ce qu'on appelle donc les traits monogéniques. Dont a en partie parlé Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire des traits ou des maladies qui sont vraiment très très fortement influencés par une ou quelques mutations dans un gène, donc avec un effet très fort d'un gène. Et puis tout le reste, c'est ce qu'on appelle les traits ou les maladies multifactorielles, et qui vont résulter d'un échafaud complexe de facteurs génétiques, de facteurs d'environnement au sens très large, et d'interactions entre tous ces facteurs. Alors, finalement, les traits qui sont dans le cas du portrait robot, c'est des traits qui sont jugés assez simples et qui sont proches du monogénique. Alors, par exemple, la couleur des yeux, là, c'était un extrait d'une revue de Forensic, là, les sciences du médico-légal, on dit en français, où on voit que si on prend... Alors, le AUC, là, ça reflète la qualité de la prédiction. Donc, plus on est proche de 1, et plus la prédiction est bonne. Et donc, c'est la prédiction pour avoir les yeux, enfin, pour les personnes qui ont les yeux marron, bleu ou entre les deux. Et donc, on voit que déjà, si on a 5 marqueurs, là, le nombre de SNPs, c'est ce nombre de marqueurs à peu près, 5 marqueurs, on peut avoir une probabilité qui approche les 90% de prédiction pour les yeux bleus ou les yeux marron. Et quand on pousse à 15, voilà, on améliore encore. Donc, on arrive à des probabilités assez élevées, mais ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est ce qu'on voit déjà, c'est que ces probabilités sont assez élevées pour les yeux bleus et pour les yeux marrons. Mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment ni l'un ni l'autre, et qui sont intermédiaires. Et donc là, les probabilités de prédiction, la qualité de la prédiction diminue autour de 70%. Déjà, même dans des traits qui sont jugés simples d'un point de vue de la génétique, on se retrouve quand même avec des situations un petit peu intermédiaires. Et une illustration de ça, donc c'est encore une revue. Alors, je ne sais pas si avec la projection on voit bien les couleurs, mais donc voilà, c'est des yeux qui sont bleus ou marrons. Et puis, il y a un peu la palette de toutes ces couleurs. Et ce qu'on voit, c'est que si on prend tout en haut à gauche un œil bleu, la prédiction, si on fait tourner les algorithmes qui ont été mis au point, la prédiction de la couleur et que cette couleur est bien bleue, pour la personne en haut à gauche, c'est une prédiction qui est solide à 87%. Pareil, tout en bas à droite, sur les yeux marrons, prédiction de couleur marron à 87%. Mais, bien sûr, il y a tout un lot d'intermédiaires entre tout ça. Et là, il y a la publication met en avant ces trois, dans le rectangle rouge, hein, ces trois cas où les prédictions ne sont pas bonnes parce que c'est des couleurs qui sont un peu intermédiaires, etc. Et donc, en fait, on a simplifié la réalité en faisant des catégories un peu fermées, alors que la couleur, c'est quelque chose de continu et qui est très compliqué. Et donc, même dans les traits simples comme ça, on arrive à faire des bonnes prédictions, mais pas forcément de façon générale pour tout le monde, parce qu'il y a des situations intermédiaires. Alors, maintenant, pour prendre un trait qui est considéré comme beaucoup plus multifactoriel, je vais parler donc en termes de traits morphologiques, mais... Petit aparté, hein, je sais qu'ici on est surtout sur un sujet biomédical, mais finalement je prends des exemples comme ça parce qu'ils permettent de résumer un peu plus simplement des situations qu'on trouve aussi beaucoup sur les questions de santé. Donc si on prend un trait plus multifactoriel, plus complexe comme la taille, voilà, la taille on sait très bien que c'est un facteur qui est très sensible notamment au mode de vie et à la nutrition. Et donc ici c'est juste... un parmi beaucoup de graphiques qui montrent l'évolution de la taille dans différentes populations depuis le 1825. Par exemple, si on voit les Hollandais, là, qui sont les plus grands d'Europe et même du monde, je crois, en moyenne, en 1825, ils étaient... Enfin, en 1850, ils étaient un petit peu plus petits que nous, enfin, presque pas loin de nous. Donc, en fait, il y a une augmentation de la taille moyenne de la population qui a été énorme au cours de ces 150 dernières années. Et l'explication, évidemment, c'est les évolutions du mode de vie, de l'hygiène, de la qualité de leur nourriture, etc. Donc, on sait que la taille est un facteur, enfin, est un caractère qui est extrêmement influencé par les facteurs d'environnement au sens large. Mais on sait aussi depuis très longtemps, et là c'est un graphique qui a été fait par Galton en 1886, donc Galton c'est vraiment un des pionniers de la génétique appliquée, enfin de la génétique en général et de la génétique humaine en particulier, puisque c'est un des premiers à s'intéresser à cette question, enfin à poser le problème de l'hérédité dans une schématisation qui fait émerger cette idée d'effet de la génétique versus l'effet de l'environnement. Et donc Galton s'intéresse en particulier à la taille, parce que d'abord c'est quelque chose qui est facile à mesurer, donc il a un certain nombre de données, et il se rend très bien compte que la taille de l'enfant, des enfants dépend très fortement de la taille des parents. Donc qu'il y a une hérédité entre... Enfin, il y a une hérédité de la taille qui paraît forte. Donc à la fois on sait qu'il y a des facteurs d'environnement, on sait qu'il y a des facteurs génétiques sur la taille. Juste pour vous dire que on trouve, quand on veut avoir un peu une idée de la taille que fera l'enfant d'un couple, il y a plein de sites sur internet de calculs comme ça, où vous rentrez votre taille, vous rentrez la taille de votre compagnon ou de votre compagne, le sexe de l'enfant, et vous calculez une valeur moyenne attendue de l'enfant. Voilà. Et c'est un prédicteur, enfin le meilleur prédicteur qu'on a aujourd'hui de la taille. Alors, donc voilà, ceci étant dit, il y a eu et il y a beaucoup d'études pour essayer d'identifier les facteurs génétiques qui sous-tendent cette taille. Et l'étude la plus complète disponible aujourd'hui, c'est une méta-analyse qui a été publiée en novembre 2014 et qui porte sur plus de 250 000 individus. Hein, donc on a la taille pour ces plus de 250 000 individus. Et tous ces individus, on a étudié sur chacun d'eux plus de 2,5 millions de SNPs, c'est-à-dire de marqueurs sur leur ADN. Et on a fait donc une étude dont parlait Dominique tout à l'heure, d'études d'association sur tout le génome. Hein, c'est-à-dire qu'on essaie de tester pour chacun de ces 2,5 millions de SNPs, est-ce qu'ils ont ou pas un effet sur la taille. Et donc, les résultats, c'est qu'il y a au total 697 endroits différents sur l'ADN humain qui ont un effet sur la taille. Donc, ce n'est pas du tout du monogénique. Il n'y a pas un gène. Hein, on est vraiment très loin de ça. Mais ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que si on prend ces 697 variants génétiques et qu'on essaye de faire la corrélation entre ces variants et la taille des personnes, la prédiction de la taille faite à partir de ces variants et la taille réelle des personnes, la corrélation n'est que... Alors, ça ne va pas très bien, mais si on prend tout à gauche les barres qui sont tout à gauche, là, au-dessus du 5, 10, moins 8, et qu'on prend le trait, on voit qu'on arrive en fait à 15%. Que la corrélation entre la taille réelle et la taille estimée sur la base de ces 687 marqueurs n'est que de 15%. Donc, voilà, on est dans de la corrélation qui est quand même pas... Enfin, je ne sais pas si vous avez tous une expérience de corrélation, mais enfin, un statisticien qui voit une corrélation de 15%, il n'est pas très, très... Ça, c'est la dernière étude en date, hein, sachant qu'il y a il y a beaucoup d'études sur ce trait parce que, justement, c'est censé être simple, c'est censé être un beau cas d'école, qu'on est censé... Voilà, on est...
Et si tu cumules plusieurs marqueurs...
Là, tu cumules les 697.
Ah, c'est si tu cumules les 697. Ah, d'accord. Très, très fun.
Voilà, donc dans ce contexte-là, donc on n'est pas du tout... Enfin, il me semble que même la policière qui était citée tout à l'heure pourrait avec nous se poser la question pour la question de la taille. Donc si on aura une photographie génétique sans la taille. Enfin, ou alors elle considère que 15% de prédiction... Peut-être que c'est le cas, je ne veux pas préjuger de l'expérience policière, je ne connais pas du tout les pratiques policières. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez loin d'être en mesure de déterminer la taille d'une personne. Mais pourra-t-on le faire dans l'avenir? Hein, est-ce que c'est qu'une question de technologie et d'amélioration? Donc c'est ça que je veux un peu discuter. Et donc une autre façon de présenter les résultats qui est assez classique, qui apparaît dans cet article, mais qui est très classique de toute la génétique des traits complexes, c'est que on commence, ça c'est la deuxième phrase de l'introduction que j'ai reproduite en haut. Donc des études estiment de façon consistante, enfin pas consistante, mais enfin, répétée, et puis non c'est quoi ? Enfin bref, que la, alors c'est un des termes techniques, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle, j'essaierai un peu de les expliquer, que la contribution génétique additive à la variation normale de la taille chez l'adulte, ce qu'on appelle donc l'héritabilité, héritabilité, c'est important, au sens étroit, est approximativement de 80%. Ce chiffre qui hante toutes ces études, c'est que l'héritabilité de la taille est de 80%. Mais dans cette étude où ils ont donc 697 marqueurs, ils n'expliquent que 15%. Alors, ce n'est pas tout à fait l'héritabilité, mais ça s'approche. C'est-à-dire qu'on n'est pas au 80%, on est à 15% aujourd'hui avec ce qu'on a. Bon. Donc ça veut dire qu'on devrait y arriver. Enfin, voilà, y a possibilité pour y arriver. Alors, je vais revenir donc sur cette notion d'héritabilité, parce qu'elle est extrêmement importante de savoir, est-ce qu'effectivement on va pouvoir déterminer demain la taille à partir de l'ADN, sachant que j'ai commencé par vous dire, évidemment la taille ne dépend pas que de l'ADN, puisque les Hollandais ont pris 20 cm en 150 ans et que la population hollandaise n'a pas changé génétiquement radicalement en 150 ans. Et donc pour ça, je vais revenir à un papier de Richard Levantine, qui est un généticien des populations américain extrêmement influent, qui, dans l'American Journal of Human Genetics, donc est vraiment un journal très important en génétique humaine, qui a, en 1974, écrit un article pour parler de ces questions d'héritabilité, qui est un article tout à fait intéressant et tout à fait pertinent, qui explique comment se pose le problème. Donc l'enjeu, c'est essayer de faire la différence entre les multiples causes qui sont à l'origine d'un phénomène. En l'occurrence, les effets de l'environnement et les effets de la génétique. Et il dit, voilà, si on prend l'hypothèse que deux hommes travaillent ensemble à construire un mur, à bâtir un mur, et qu'on se demande quelle est, à la fin de la journée, la proportion de ce mur qui a été construite par chacun des deux hommes. S'ils travaillent en parallèle et que chacun monte les briques et le mortier à côté l'un de l'autre, il suffit à la fin de la journée de compter le nombre de briques qui ont été posées. Mais s'il y en a un qui pose les briques et l'autre qui met le mortier, on ne peut plus faire ça. Parce que les deux, l'action des deux est nécessaire pour faire monter le mur. Et c'est exactement ce qui se passe dans la question des gènes et de l'environnement. On ne peut pas faire un individu en mettant que de l'ADN dans un tube. Il faut toujours de l'environnement et réciproquement, on ne fera pas d'individu qu'avec de l'environnement. Il y a toujours les deux. Donc on n'est pas dans une situation où on peut artificiellement évaluer la contribution de chacun des deux facteurs. Donc la solution qu'ont proposé les généticiens au début du XXe siècle, notamment un des pionniers de ça, c'est Ronald Fisher, c'était de contourner le problème et au lieu de répondre à cette question, quelle est la part des gènes et de l'environnement dans un trait ou dans une maladie, question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est de dire, on ne peut pas répondre à cette question-là, mais si on la formule un peu différemment, on peut apporter des éléments de réponse. Et la nouvelle formulation, qui a été proposée par Fisher et qui depuis a eu une grande trajectoire, c'est de faire ce qu'on appelle de l'analyse de variance, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à évaluer la contribution des gènes ou de l'environnement au caractère, on s'intéresse à la population. On sait que la taille, par exemple, est un trait qui varie dans la population. Il y a des petits, il y a des grands. Et en moyenne, il y a beaucoup de gens qui sont entre les deux. Et on va s'intéresser à qu'est-ce qui explique les variations entre les personnes. Donc, on sait que la taille varie selon les personnes. On sait qu'elles n'ont pas toutes les mêmes gènes et qu'elles n'ont pas toutes dans le même environnement. Est-ce qu'on peut évaluer la part de variation de la taille qui est liée aux variations interindividuelles d'un point de vue génétique, et qui est lié aux variations interindividuelles en termes d'environnement. Donc, ça, c'est des formules, c'est pas du tout pour rentrer et pour impressionner qui que ce soit avec des formules mathématiques, mais c'est juste pour dire que derrière ces calculs, il y a des hypothèses assez fortes qui sont faites. Et ces hypothèses, c'est que la taille, enfin, le phénotype, ce qu'on observe, résulte de l'effet des gènes plus l'effet de l'environnement et qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre les gènes et l'environnement. Parce que ça complique un petit peu le modèle d'avoir cette interaction. Donc, en fait, c'est une simplification extrême de la façon dont ça se passe. Mais si on fait cette simplification-là, alors on peut faire des calculs de variance. Il y a tout un arsenal de méthodes statistiques qui permet de traiter toutes ces données. Et donc, si on fait toutes ces hypothèses, on peut calculer ce qu'on appelle donc l'héritabilité, donc ce qui est vraiment un concept statistique clairement défini, qui est un rapport entre la variation qui peut être imputée au gène sur la variation de la taille dans la population. Donc l'héritabilité, c'est un rapport de variation. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ce n'est pas du tout la proportion du trait qui est lié au gène. Quand on dit la taille a une héritabilité de 80%, ça ne veut pas dire que 80% de la taille est liée au gène. Parce qu'on ne peut pas répondre à cette question. D'accord ? Donc c'est vraiment dans un cadre statistique, avec des hypothèses qui ont... Alors, il faut être fair play, pourquoi ils ont fait ces hypothèses-là ? C'est parce que tous ces développements-là ont été faits dans des cadres principalement de sélection végétale, un peu animale, où on était dans des cadres de contrôle de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a des champs de maïs, ou de, je ne sais plus sur quoi travaille Fischer, mais dans les stations expérimentales végétales, on fait du contrôle, on peut mesurer à peu près l'environnement, les graines, elles peuvent être génétiquement identiques, etc. Donc on est vraiment dans des situations où on peut contrôler beaucoup ce qu'on fait. Donc ça pouvait avoir un sens d'être dans des modèles comme ça. La question, c'est de savoir quelle est la validité de ces modèles et de ces hypothèses en génétique humaine. Et donc, parce que ce qui est important, c'est que du coup, la valeur de l'héritabilité n'est pas une valeur en soi, elle dépend de l'environnement dans lequel sont les individus. Et l'article de Léventagne, il a de 1974, donc il l'a écrit dans un contexte où il y avait beaucoup de débats autour de héritabilité et QI. Donc il y avait plein de critiques sur la mesure de l'intelligence qui représente le QI, mais il y avait aussi beaucoup de critiques sur qu'est-ce que ça veut dire que de faire de la génétique du QI. Et donc dans leurs articles, donc dans celui-là comme dans d'autres, ces généticiens disent on ne peut pas utiliser ce concept d'héritabilité chez l'homme parce que les hypothèses sur lesquelles il repose sont trop fortes par rapport à ce qui se passe en vrai. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'interaction gène-environnement chez l'homme, c'est pas vrai parce qu'on est toujours dans des environnements qu'on ne contrôle pas, etc. Et que, donc eux, ils sont vraiment, bon après c'est aussi le ton de Léventine, il dit il faut arrêter cette recherche sans fin de mesures qui ne servent à rien. Voilà. Le truc, c'est que comme on n'a pas de mesures de la part des gènes et de l'environnement, eh bien, cette mesure d'héritabilité a continué à être utilisée. Elle est encore aujourd'hui utilisée. Je vous ai montré ce papier de 2014, où c'est deuxième ligne d'introduction, pouf, 80% d'héritabilité. Voilà. Parce qu'on aimerait bien pouvoir répondre à cette question. Mais en vérité, les outils qu'on a ne permettent pas d'y répondre, et parce que conceptuellement, c'est pas possible de le faire. Donc, l'héritabilité n'est pas une mesure directe de l'effet du génome. Elle repose sur des hypothèses fortes. Alors, j'ai parlé du fait qu'il n'y avait pas d'interaction entre les gènes et l'environnement. Il y a une autre hypothèse qui est très forte, c'est que quand tu parlais d'accumuler l'information sur les variants, l'hypothèse qui est faite aussi, c'est que c'est plein de petits effets qui vont s'additionner. Or, voilà, c'est potentiellement beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des petits effets additifs qui vont s'additionner. Ça peut être plus compliqué que ça. Donc, Cette mesure repose sur une modélisation statistique qui a une certaine pertinence, mais qui a aussi des limites. Et donc, moi, personnellement, je suis assez convaincue de ces démonstrations qui insistent sur le fait que ce n'est pas une estimation robuste de l'effet attendu du génome sur les traits complexes. Donc, sur la taille, on n'est qu'à 15% des 80%, et on n'est même pas... les 80% ne veulent pas dire que 80% de la taille est génétique. Et en plus, ces 80% sont obtenus avec plein d'hypothèses dont la solidité est plus que discutable. Donc, tout ça pour dire que ça me paraît compliqué qu'on arrive à faire plus. Alors, donc ça, c'est les mesures d'héritabilité, c'est des mesures qui sont faites... comme ça, a priori. Maintenant, qu'on fait beaucoup d'études génétiques, on a, comme je le montrais dans l'étude sur la taille, une estimation de l'effet du génome sur la taille qui est estimée à partir de ces études-là dont je parlais d'association sur tout le génome. Et ces études, donc ce 15% pour la taille, il est calculé en supposant que tous les gènes qui ont été identifiés ont des petits effets additifs et qu'il n'y a pas d'interaction entre ces gènes et qu'il n'y a pas d'interaction entre les gènes et l'environnement. Ça, c'est l'hypothèse qui sous-tend ces calculs de 15%. Et le problème, c'est que on n'a qu'à les prendre en compte, ces interactions. Pourquoi on ne les prendrait pas en compte si on pense qu'il y en a des interactions entre gènes et environnement. Sauf qu'en fait, il y a des travaux un peu théoriques qui montrent que dans ces contextes-là, donc juste pour info, j'aurais dû le dire avant, mais ces études d'association, globalement, on va prendre, dans le cas-là, 250 000 personnes, on mesure leur taille, on analyse leur ADN et on cherche des corrélations entre l'ADN et la taille. Et ben, dans ces études théoriques, ça montre qu'en fait, on n'arrive pas, dans ces cadres expérimentaux-là, on n'arrive pas à détecter des interactions gènes-gènes ou des interactions gènes-environnement. C'est-à-dire que le plan d'expérience, qu'est une étude d'association sur tout le génome, ne permet pas de détecter ces interactions. C'est une façon un peu statisticienne de présenter les choses, mais il ne suffit pas de dire on n'a qu'à rajouter les interactions, on va les trouver. En fait, quand on les rajoute et qu'on essaye de les trouver, ça ne marche pas. On ne les trouve pas. Parce qu'on n'a pas le bon matériel pour démontrer ça. C'est pas comme ça si on veut résoudre ce problème, c'est pas avec ces outils-là qu'il faut le poser. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on reste dans ce cadre méthodologique-là, qui est un cadre très très largement utilisé, c'est-à-dire que ces études-là, c'est pour ça que je suis désolée s'il y a des non-généticiens qui n'ont jamais entendu parler, mais en fait, quand on fait des topos maintenant en génétique, on ne présente même plus ce que c'est qu'une GWAS parce que tout le monde sait ce que c'est, parce que tout le monde en a fait, parce que c'est le devenu la technique standard en génétique humaine. Tout le monde fait ça dans tous les sens, quoi, ou l'a fait de près de loin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très standard. Et pourtant, on n'arrive pas à en trouver, ou très peu, et il y a des bonnes raisons, on va dire, un peu sans rentrer dedans, pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à les trouver. Donc, c'est juste un papier qui est un peu plus vieux, mais qui montrait que si on prend la taille moyenne des parents, on estime à peu près 50% de la variation, on arrive à évaluer 50% de la variation interindividuelle de taille. Alors que si on prend, à l'époque, c'était 54 gènes en 2009, on en estimait que 4%. Si on prend aujourd'hui les 697 gènes, on en explique que 14%. Donc, ça reste bien meilleur de faire une taille moyenne de par an que de faire une analyse du génome entier tel qu'on les conduit aujourd'hui. Voilà, j'ai pris cet exemple et je vais en prendre d'autres qui sont biomédicaux, mais pour insister sur moi personnellement, je pense, personnellement et sur la base de ce que je connais de ces études, que la photographie de la taille, en tout cas des individus, et de beaucoup d'autres traits complexes de ce type-là, n'est pas pour demain. Et n'est pas pour demain, ne sera même pas possible, sur la base du seul ADN. La question, c'est quand même ça. Alors, je vais prendre maintenant d'autres exemples, mais en allant un peu vite, de traits médicaux. Donc là, c'est la maladie de Crohn. Donc, la maladie de Crohn, c'est une maladie chronique inflammatoire qui a beaucoup d'éléments qui font qu'il y a beaucoup de généticiens qui se sont penchés sur cette maladie. Elle a pas mal des caractéristiques qu'on attend d'une maladie pour juger que ça vaut le coup de l'étudier d'un point de vue génétique. Et en 2001, il y a un gène qui a été identifié par une étude française, le gène NOD2, qui est le premier facteur de risque génétique identifié pour Crohn. Alors, ensuite, donc, il y a eu ces nombreuses études d'association sur tout le génome. Et aujourd'hui, les derniers travaux ont identifié 71 marqueurs qui sont associés à cette maladie, qui contribuent à l'expliquer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, chacun a un effet petit sur le risque de maladie. Et que du coup, si on prend, si on cumule l'effet de ces 71 locus, la capacité de prédiction pour savoir si une personne va être malade ou pas n'est pas cliniquement pertinente. hein, parce qu'on arrive à des explications qui expliquent à peine 20% des différences inter-individuelles. Donc on n'est pas du tout dans un cadre de prédiction, alors même que la maladie de Crohn est jugée comme parmi les maladies multifactorielles, celle pour lesquelles la composante génétique est la plus, fait partie des plus solides. Donc voilà, la question du passage de cette prédiction individuelle à l'action clinique, dans ce cas-là, elle se pose de façon quand même très problématique. Et là, on rejoint complètement ce que Dominique disait tout à l'heure, sauf que nous, on n'est pas du tout dans les proportions de Bercé 1. Et alors, pas forcément dans la maladie de Crohn, mais ce qu'il y a d'assez, je dirais pas rigolo parce que c'est peut-être pas le terme, mais il y a beaucoup de sociétés qui se sont développées pour faire des calculs de tests de risques génétiques sur Internet. Et ce qu'il y a d'assez paradoxal, c'est que quand ils font des mesures de risque qui sont donc de ce type-là, hein, qui sont en général même moins bonnes que celles-là, si quelqu'un est jugé un peu à risque, ce qu'on lui recommande, c'est de changer son mode de vie pour réduire son risque, alors même que tous ces calculs sont faits sans prendre en compte l'environnement, et qu'on sait pertinemment que l'environnement et les gènes s'interagissent. Donc, il y a un petit côté comme ça où, de toute façon, ces recommandations ne servent pas à grand-chose. De toute façon, le fait de faire attention à ce qu'on mange, de faire du sport, et puis, etc., c'est valable pour tout le monde. Hein. Mais en plus, c'est assez étonnant qu'ils fassent ça, alors même qu'ils ne prennent pas du tout en compte ces éléments environnementaux dans leur mesure de risque. Alors ça, c'est un premier exemple sur l'évaluation du risque. Un autre domaine où ces données génomiques se sont beaucoup développées, c'est la question de ce qu'on appelle la pharmacogénétique, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'information génétique pour prédire qui va répondre ou pas à un traitement donné, sachant qu'il y a une variabilité assez forte de réponse au traitement. Là, c'est un cas qui est un petit peu différent. C'est le cas de la warfarine, donc qui est un anticoagulant, qui est extrêmement prescrit. Et le problème de la warfarine, c'est que la dose qu'il faut donner à chacune des personnes est très variable d'une personne à l'autre. Et donc, à chaque fois qu'une personne... On doit prescrire la warfarine à une personne, il y a une période de latence où il faut qu'on définisse quelle est la bonne dose qui va être efficace sur cette période. C'est un vrai problème parce que ça peut avoir des effets secondaires importants. Alors, on sait que la dose efficace pour une personne va dépendre de son régime alimentaire, du fait qu'elle suive bien les traitements, et puis aussi de facteurs cliniques et démographiques qui, pour certains, ont été identifiés. Mais on sait depuis plusieurs années qu'il y a aussi des facteurs génétiques qui interviennent dans cette réponse à la warfarine. Et il y a en particulier deux gènes qui ont été identifiés et qui expliquent 50% des différences individuelles de réponse au traitement. Et à tel point que la FDA américaine, donc qui est l'agence en charge de la réglementation des médicaments, a introduit dès 2007, raffinant encore depuis, le fait dans la notice de la warfarine, des références au fait qu'il fallait préférentiellement faire des tests génétiques pour déterminer quelle serait la dose efficace pour une personne. Ça qui est important, c'est qu'ils l'ont introduit dans la notice de la warfarine, alors qu'il y a, quand ils ont commencé à vouloir le faire, il y a quand même eu des oppositions, en particulier d'associations professionnelles et d'assurances santé, qui ont dit « mais c'est pas très solide, votre truc. » C'est-à-dire que les résultats scientifiques qu'on a pour justifier le fait de faire des tests génétiques pour évaluer l'efficacité, le dosage du traitement, les données scientifiques ne sont pas très solides. Et donc, le NIH et l'Europe ont financé des essais cliniques randomisés pour essayer de voir si utiliser l'information génétique, ça permettait réellement d'améliorer, enfin de raccourcir la durée de cette phase un petit peu compliquée où il faut rechercher, tâtonner avant de trouver le bon dosage de warfarine. Donc il y a eu trois essais qui ont été publiés dans le même numéro du New England Journal of Medicine en 2013. Et pour le faire court, Ces trois essais n'ont pas tout à fait les mêmes résultats. Enfin, globalement, quand on compare deux groupes et qu'on définit le dosage initial de warfarine en utilisant un algorithme qui intègre les effets cliniques ou un algorithme qui intègre les effets cliniques et les effets génétiques, en fait, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire qu'on ne définit pas mieux, on n'est pas meilleur. Alors, évidemment, il faut rentrer dans le détail de toutes les essais cliniques, ces petits détails qui sont importants pour des gens qui s'intéressent à ça. Mais globalement, c'est quand même des résultats qui sont assez décevants, parce qu'ils montrent qu'on a deux gènes qui expliquent 50% de la variabilité, donc c'est quand même important. Pour la plupart des traits, on n'arrive pas à ça. Et même dans ce cas-là, quand on essaye de passer en clinique, de voir quel effet que ça peut avoir sur la prise en charge, et qu'on fait ça dans un cadre très contrôlé, réglementé d'essais cliniques, eh ben c'est des résultats qui apparaissent comme étant de même efficacité, qu'on prenne ou pas en compte l'information génétique. Donc bon, il y a eu des résultats un peu différents, mais finalement, l'éditorial qui faisait le chapeau sur ces trois publications disait ces tests pharmacogénétiques sont soit inutiles, soit d'utilité marginale en rapport du coût et des efforts qui sont nécessaires pour faire ces tests. Et plutôt que de vouloir faire des tests génétiques, peut-être faut-il se concentrer sur améliorer l'infrastructure des laboratoires qui font ces tests, une meilleure communication. Utiliser au mieux l'information déjà disponible, améliorer les procédures, plutôt que vouloir introduire de l'information génétique dans ces tests-là. Pour terminer, parce que j'avais quand même cette question de la surveillance en tête, et en fait, en préparant cet exposé, je suis tombée sur cette information qui vous est certainement parvenue, qui est que dans son discours en janvier 2015 sur l'état de l'Union devant le Parlement américain, Barack Obama a officiellement lancé « Tonight I'm launching a new Precision Medicine Initiative ». Donc cette Precision Medicine Initiative pour rapprocher, pour accélérer la guérison des maladies comme le cancer et le diabète, et pour nous donner la possibilité d'accéder à la formation personnalisée qui nous permettra de garder nos proches et nous-mêmes en meilleure santé. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une interrogation que j'ai par rapport à ça que je voulais partager. Je serais très contente d'avoir vos réactions. Mais c'est un peu petit là, mais il y a plusieurs choses dans son plan. Mais en particulier, c'est un plan de 215 millions de dollars. Il y a notamment 130 millions de dollars qui sont donnés au NIH pour développer une cohorte de volontaires au niveau du pays, d'un million de personnes ou plus, qui seraient d'accord pour mettre dans une base de données toutes leurs informations de santé et les informations génétiques, avec un séquençage de tout leur ADN. Alors, je suis allée sur le site du NIH, où il précise ce que le NIH entend par ça. Et donc, voilà ce qu'on y lit. Chaque volontaire participant partagera son information génomique et des informations biologiques. Cette information sera mise en relation avec toute donnée clinique importante, donc des... comment dire, des électroniques, des dossiers de santé informatisés, des laboratoires, des résultats de tests de laboratoire, des scans, des modes de vie comme la consommation de calories, des expositions environnementales, de l'utilisation des téléphones portables. Enfin, il y a toute une liste comme ça qui se rallonge de toutes ces choses qui vont être ajoutées dans cette grosse base de données avec la génétique. Donc, on part de la génétique, mais en vérité, on rajoute un maximum de choses derrière. Mais quand j'ai regardé un peu comment la presse américaine avait traité cette information-là, alors je n'ai pas fait ça de façon complètement exhaustive, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que on va séquencer les gens. Voilà, c'est The White House on Friday unveil programme to study genes of a million Americans. Donc la seule chose qui est mise en avant, c'est on va faire des études de gènes. Alors qu'en vérité, la base de données, elle est beaucoup plus large, et pour cause. Comme je vous l'ai montré, si on ne fait que des gènes, on ne va pas très loin. Donc on a vraiment besoin d'une autre information. Et une autre information que j'ai mise en relation avec ça, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est quand même un fait marquant aussi. C'est que donc, ces sociétés dont je parlais tout à l'heure, qui proposent des tests en ligne, comme 23andMe, où on paye un petit peu, et puis on envoie un peu de salive, et en retour, on a l'information sur ces risques de maladie ou sur ses origines biogéographiques, etc. Eh bien, 23andMe, la société, a signé récemment deux gros contrats avec des boîtes des Big Pharma américaine, enfin non pas seulement, et notamment avec donc, la société Genentech qui va utiliser la base de données qui a été collectée par 23andMe pour mener ses études de recherche sur la maladie de Parkinson. Donc avec un gros chèque à la clé pour 23andMe, je crois, qui est plutôt bienvenu. Et il y a aussi Pfizer qui a lancé une collaboration. Pareil, l'idée, c'est de pouvoir accéder à la base de données. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces bases de données, il y a beaucoup d'informations, qu'en plus, les gens qui ont participé à ces collectes, entre guillemets, parce qu'ils ont payé, mais bon, ils y sont très volontaires, ils sont prêts à répondre assez facilement à tous les questionnements. Et ce qui les intéresse, finalement, c'est Big Pharma, c'est ce qu'on lit. Enfin, là, je n'ai pas encadré, malheureusement, les détails, mais c'est que vraiment, pour eux, c'est des super bases de données. Elles sont là, il y a plein de gens, ils sont volontaires et on peut avoir plein d'infos sur eux. Information génétique, bien sûr, mais aussi plein d'autres informations. Et du coup, voilà, il y a ça. Voilà, donc c'est une base de 12 000 patients qui ont été recrutés pour Parkinson, c'est énorme. Il y a quasiment pas de bases qui sont aussi précises. Et ça m'a fait penser à une histoire, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais que je raconte à mon petit garçon, que c'est la soupe aux cailloux. C'est le loup qui frappe à la porte de la poule. Et il a son sac, dans son sac, il a un caillou et il dit « Ah, je voudrais faire une soupe aux cailloux ». Et donc, la poule lui dit « Ah bon, tu fais comment ta soupe ?»« Ah, je mets un caillou dans l'eau. » Il met dans l'eau à bouillir, il met son caillou dedans. Et la poule dit « Ah, moi, je vais rajouter quand même un poireau. » Il dit « Très bien, rajoute un poireau. » Puis après, il y a l'âne qui arrive, qui frappe à la porte et qui dit « Ah, moi, je rajouterais bien une carotte. » »« Bah, mets une carotte. » Et puis comme ça, il y a tous les animaux qui arrivent et à la fin, ils dégustent ensemble une magnifique soupe où il y a plein de choses, parce qu'ils ont tous apporté plein de choses. Et puis le loup, une fois qu'ils ont tous bien mangé, il reprend le caillou, et puis il dit « Non, il n'est pas encore assez cuit, je m'en vais, je vais voir ailleurs. » Et puis on imagine que comme ça, tous les soirs, il mange à l'œil parce qu'il a apporté son caillou. Tout le monde pense manger la soupe au caillou, mais en fait, ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a avec la soupe au caillou. Quoi. Et voilà, bon, je vous soumets cette hypothèse, mais du coup, je me suis dit, voilà, c'est sûr qu'on est dans un contexte de crise de l'innovation pharmaceutique avec la montée en puissance des modèles de thérapie moléculairement ciblés. Il y a des enjeux économiques énormes autour du marché des biotech, parce que c'est vrai qu'il y a un positionnement international en santé. Les Américains, ils sont number one, Illumina et toutes les grosses firmes qui produisent l'outillage et autour de la génomique, ça fait beaucoup tourner l'économie américaine. Donc c'est sûr que la génomique est incontournable aujourd'hui en santé, et pas qu'en santé d'ailleurs. Mais parallèlement, la génomique a besoin de données de santé, de mode de vie, etc. pour être informative. Et donc, on constitue ces grandes bases de données au nom de la génomique. Alors certes, on utilisera cette information, mais du coup, on lance encore plus. C'est au nom de la génomique, on constitue ces grandes bases de données. Et de facto, les gens sont très volontaires pour se lancer. Alors, je ne juge pas, je ne sais pas, en tout cas, évidemment que la question de la surveillance et de toutes ces bases de données qui sont mises en commun se retrouve démultipliée. Voilà.